Donc, vous voyez, il faut parler d'emprunts bibliques, des emprunts bibliques, qui sont en plus déformés. À partir de là, on peut dire que l'islam a des histoires, mais il n'est pas une histoire. Ça, c'est très important. L'islam a des histoires, mais il n'est pas une histoire. Le Coran, ce n'est pas l'histoire de Dieu avec l'humanité telle qu'elle est décrite dans la Bible. La Bible, c'est vraiment l'histoire de Dieu avec l'humanité. Dieu qui prépare un peuple avec la pédagogie, qui tient compte des limites et des faiblesses des hommes jusqu'à ce que le peuple élu soit prêt, en principe, à accepter donc le Messie Jésus. Là, non, on est en face d'histoires éparses, dont on ne sait pas où elles se passent, ni quand elles se passent, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que les personnages qui ont été retenus, personnages bibliques qui ont été retenus dans le Coran, eh bien, ce sont en fait des musulmans qui veulent édifier la communauté des musulmans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous vous rappelez, du point de vue musulman, l'islam, c'est la religion que Dieu a inscrite dans la nature de l'homme dès l'origine. Finalement, le Coran islamise tout, hein, tout ce qui relève de la Bible. Alors, c'est pour ça que je vais vous citer le constat d'un grand islamologue, le père dominicain, Jacques Jomier. Jacques Jomier, je crois que son livre est à la bibliothèque, je l'avais recommandé. Jomier, J-O-M-I-E-R, il est mort il y a quelques années. Il a écrit un livre qui s'appelle Pour connaître l'islam, aux éditions du CERF. C'est le livre de base pour tout savoir sur l'islam. C'est vraiment le livre de base. Alors, c'est pas dans ce livre, mais ailleurs, il a écrit ce que je vous dis. C'est une véritable relecture des événements, sous-entendu biblique, qu'offre le Coran, relecture que les musulmans présentent comme le rétablissement d'une vérité qui aurait été défigurée. Comme je vous l'ai dit déjà, le Coran accuse les juifs et les chrétiens d'avoir déformé, trafiqué, falsifié leurs écritures. Alors, au fond, dans le récit coranique, qui est discontinu et répétitif, sans arrêt, à travers les sourates, tel ou tel point revient, comme pour le faire bien entrer dans l'esprit des musulmans. Donc, dans le récit coranique discontinu et répétitif, les prophètes apparaissent comme obéissant à une seule mission. À chaque peuple est envoyé par intervalle un prophète pour lui rappeler le monothéisme. Ce sont les nabis, hein, la première catégorie des prophètes, ceux qui ont simplement pour vocation de rappeler le monothéisme, ainsi que le jour dernier et le jugement. Mais le Coran explique que chaque fois, le peuple tombe dans l'incrédulité, il est châtié par Dieu, et donc l'envoi d'un nouveau prophète nabi pour rappeler le monothéisme. Mais il n'y a pas de progression de la pédagogie divine dans le Coran. C'est surtout une sorte de répétition. Vous trouverez ça exprimé dans la sourate 26, versets 105 à 191, où il y a cinq récits construits selon le même schéma. Dans les intervalles, entre les prophètes en question, les hommes plongent dans l'ignorance, l'infidélité. Ils deviennent, comme on le dit dans l'islam, incapables de témoigner de l'unicité de Dieu. C'est ça le problème, c'est que les hommes oublient qu'ils doivent témoigner de l'unicité de Dieu. Et c'est ainsi que donc les trois grands prophètes, qui sont Nabi, Rasoul, apportent le livre de Dieu pour redéfinir, redire ce que Dieu voulait à l'origine. Donc des dictées divines, je vais vous en parler après. Et tout ça jusqu'à l'arrivée de Mahomet, dont la vocation, elle, donc, s'étend au monde entier. Alors, je vais vous présenter quelques figures de prophètes qui sont communs sans être communs, qui sont les mêmes et pas les mêmes, on pourrait toujours dire, dans la Bible et dans le Coran. Par exemple, il y a Noé. Noé, il est très présent. Même son nom a été choisi comme titre d'une sourate. C'est la 71e sourate. Noé, en arabe, c'est N majuscule U, accent grave H, nu. Le Coran le définit comme envoyé fidèle de Dieu, ou bien aussi avertisseur explicite du Dieu unique et juge de tous. Le Coran raconte que Noé n'a pas été écouté par son peuple qui s'est rebellé contre lui. Alors là, on tombe un peu dans une similitude avec la Bible. Noé demande à Dieu de ne laisser sur la terre aucun habitant, sauf ceux qui sont crédules. Mais les incrédules, il faut les éliminer. Sourate 71, verset 26. Et alors, Dieu lui ordonne de construire un vaisseau, d'y faire entrer sa famille, ainsi que les croyants, et un couple d'animaux de chaque espèce. Ils seront sauvés. Sourate 11, verset 37 et 23, verset 27. Alors Moïse. Moïse a une très grande importance pour les musulmans. Il est vraiment très très présent. C'est le personnage biblique dont le nom est le plus cité dans le Coran. On le retrouve dans 502 versets, sur 6000 et quelques versets. Il est plus présent qu'Abraham et que Jésus. Donc il est décrit comme ayant reçu un livre de Dieu, la Torah, donc destiné au peuple juif. Voilà ce que dit le Coran. Nous, le « nous » c'est Dieu, nous avons en vérité donné le livre à Moïse et nous avons envoyé des prophètes après lui. Donc on annonce les autres prophètes. Sourate 2, verset 87. Pourquoi le Coran insiste tellement sur le personnage de Moïse? C'est parce que, comme c'est le cas d'ailleurs dans la Bible, Moïse était le chef temporel et spirituel d'un peuple. Et donc c'est une sorte de préfiguration de ce que sera Mahomet plus tard. De ce que Mahomet sera à Médine, comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, Abraham. Abraham, c'est une des figures les plus éminentes du Coran, même s'il est moins cité que Moïse. Voyez, pour Moïse, Moïse est cité dans 502 versets sur 6236 versets. Abraham, lui, est cité dans 245 versets. Mais son nom, Ibrahim, en arabe, sert aussi d'intitulé à une sourate, la 14e. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir au sujet de l'Abraham du Coran? C'est qu'il est présenté comme le premier musulman déclaré de l'histoire humaine et le parfait musulman. Le premier déclaré de l'histoire humaine, musulman, c'est parce que, bien sûr, Adam était musulman, mais ça allait de soi, si vous voulez. Lui, il se déclare parfaitement musulman, officiellement, si vous voulez, publiquement, en acceptant de sacrifier son fils unique à Dieu qui le lui demandait. Là, on a un parallélisme avec la Bible, mais il y a une différence, je vais vous dire. Donc, le récit du sacrifice du fils unique d'Abraham dans le Coran est à la sourate 37, verset 102. Mais, donc, il y a une différence, c'est que le Coran ne donne pas le nom du fils qu'Abraham a été invité à sacrifier. Il n'est pas question de son nom. C'est par la suite, les responsables musulmans diront que c'est Ismaël. Il y a Isaac et Ismaël, les deux fils d'Abraham, comme vous le savez. Isaac le fils légitime, Ismaël le fils illégitime. Ce qu'il est frappant de constater, c'est que quand le Coran se déroule, quand on rétablit l'ordre chronologique, on se rend compte qu'au tout début, il n'est question que d'Isaac. Ismaël n'apparaît pas du tout. C'est vraiment quand on rétablit l'ordre chronologique. Plus le temps avance et plus les divergences avec les juifs et les chrétiens s'approfondissent, plus le personnage d'Ismaël apparaît. Ça, c'est quand même significatif. Et finalement, c'est que quand, après la rupture entre l'islam et le judaïsme, que les musulmans, même si ce n'est pas dans le Coran, diront que le fils qui était destiné au sacrifice, c'était Ismaël. Et à ce moment-là, les musulmans rattachent l'islam à Abraham par Ismaël et non pas à Isaac. Isaac, c'est l'intermédiaire pour les juifs et pour les chrétiens, hein, entre par le lien avec Abraham. le nom d'Ismaël, donc il n'apparaîtra qu'à Médine, lorsque Mahomet n'a pas pu convaincre les Juifs d'accepter sa prédication. Alors donc, Abraham est le parfait musulman, le premier déclaré officiellement, dans la mesure où il s'est soumis à Dieu, comme je vous l'ai dit, être musulman, c'est se soumettre à Dieu, donc soumis à Dieu par, en acceptant de sacrifier son fils. Mais il y a une différence très importante avec l'Abraham de la Bible, c'est que l'Abraham du Coran n'a pas bénéficié d'une alliance. Dieu ne fait pas alliance avec Abraham et à travers Abraham, avec l'humanité tout entière. Ça, c'est très important. C'est une différence fondamentale, l'absence d'alliance dans le Coran. Ça signifie bien, encore une fois, comme je disais ce matin, que Dieu reste totalement étranger à l'homme. Il le regarde de haut, il lui dicte sa loi, sa volonté, mais il n'entre pas dans une relation d'amitié et même d'amour avec ses créatures humaines. Et à partir du moment où l'islam devient autonome par rapport au judaïsme, eh bien, la Kaaba est islamisée, le temple dont j'ai parlé ce matin, et le Coran dit que c'est Abraham avec Ismaël qui ont construit ce temple, la Kaaba. Sourate 2, verset 127. D'autres changements interviennent aussi à ce moment-là. Tout à l'heure, je vous ai parlé du changement d'orientation pour la prière. Il y a aussi le choix du vendredi. Vous savez que la prière, le vendredi, on en reparlera après, mais le vendredi, c'est le jour de la grande prière hebdomadaire pour les musulmans. Pourquoi le vendredi? Pourquoi est-ce qu'on a choisi le vendredi? C'est pour montrer l'antériorité de l'islam par rapport aux deux autres monothéismes. Les juifs ont le sabbat le samedi, les chrétiens le dimanche, jour de la résurrection, mais comme l'islam se déclare la religion donnée par Dieu aux hommes à l'origine, bien sûr, il fallait un jour antérieur avant les deux autres. Vous comprenez? Et aussi, c'est aussi pour la raison pour laquelle Mahomet, qui a eu un seul fils, lui a donné le nom d'Ibrahim, Abraham, ce fils qui est né d'ailleurs d'une concubine copte, donc chrétienne d'Égypte, Marie la copte. Mais Ibrahim est mort en bas âge, d'où les problèmes qu'on a évoqués ce matin.